Bonjour tout le monde, comme ça ira plus vite. Donc là, on est sur cette tournée 2025 à Muret. Beaucoup de dates qui s'enchaînent. Et sur cette tournée, moi, ce que j'ai noté pour démarrer, c'est que vous jouez peu sur scène de la guitare.
Je ne joue pas du tout.
Pas du tout cette fois-ci.
Non, c'est terminé.
D'accord. Donc, je pensais qu'il y avait quelques morceaux sur lesquels vous jouiez.
Non.
D'accord. Et en particulier parce que vous êtes très largement accompagné de guitaristes et autres musiciens.
J'ai trois guitaristes, oui. Trois guitaristes, et il y a eu un mélange de deux choses. Le premier, c'est que j'ai vraiment des rhumatismes, donc ça va moins vite, et ça m'amuse plus. Et le deuxième, c'est que je me suis cassé le bras au début des répétitions, donc j'ai commencé à travailler avec mes trois guitaristes et un bras en écharpe. Et quand j'ai balancé l'écharpe, je ne savais plus où me mettre, quoi. Je ne savais plus quoi jouer.
Ils avaient pris la
ils
place.
Ils avaient tout pris.
Donc vous pouvez les citer, donc il y a bien sûr votre fils Arthur.
Il y a mon fils Arthur, il y a Bruno Guglielmi qui est un auteur de chansons, mais qui joue très bien de la guitare aussi, et qui joue plutôt de la guitare aiguë, la guitare lélée, l'octave au-dessus. Et puis il y a Manu Galvin
qui est un incontournable
pilier. Oui.
Voilà. Et donc le fils, le fait de jouer avec votre fils sur scène, donc ça fait quelques temps que vous tournez avec lui, plusieurs années maintenant.
Plusieurs années,
par contre, moi ce que j'ai entendu dans les dernières versions publiées, c'est que maintenant vous chantez ensemble, donc le fait de chanter avec votre fils, donc avec des voix mêlées des voix comme un dialogue. Alors je ne sais pas si vous avez prévu d'enregistrer le dialogue.
C'est fait ça.
Vous l'avez fait?
Oui, c'est fait. Il faut dire que cette tournée est un peu particulière, elle a commencé en 2019. Et puis il y a eu le Covid 1, le Covid 2, les machins, etc. Et puis donc on la termine maintenant, quoi. C'est ça qui est bizarre. Mais entre temps, on a enregistré un album live, un album en public.
On a trouvé une date.
Qu'on a fini par trouver une date parce que c'était. C'était ça, il y a eu des concerts qui ont été reportés quatre fois quand même, c'était bizarre.
Ouais. Et parmi ces titres, moi j'en ai un que j'aime particulièrement, dans ceux que vous chantez ensemble, c'est Fontenay aux Roses et l'éducation sentimentale. Et j'ai trouvé, en cherchant un peu dans les archives, que vous aviez enregistré une émission en 1975 sur France Musique, où vous chantiez ces deux titres séparément, accompagnés par le trio Fontana Rosa. Et vous chantiez les deux titres avec des arrangements, notamment sur Fontenay. Je crois que c'était, il y avait une flûtiste et une harpiste qui vous accompagnait dans cette émission en 1975, et c'était particulièrement plaisant. Donc là, le retrouver là, ces deux titres mélangés, parce que là, vous les avez tissés, c'est vous qui avez eu l'idée ou c'est Arthur?
Non, c'est ni moi ni Arthur, c'est un des chefs de chœur des Nuits de Champagne, qui s'appelle Steve Bayon.
D'accord.
À qui j'avais donné l'autorisation de tout faire à mes chansons, sauf changer la tonalité, parce que j'ai pas une voix extensible, donc pour lui donner un exemple, j'ai un de mes amis qui s'appelle Alain Louvier, qui est prix de Rome, qui est un créateur de conservatoire, qui a dirigé le CNSM.
Le Sommeil des Amoureux.
Et le Sommeil des Amoureux, voilà. Et qui prenait sa retraite. Et comme il a créé le conservatoire de Boulogne, les nouveaux directeurs lui ont dit « Écoute, fais une soirée avec tes œuvres. » Donc il m'a téléphoné en me disant « J'aimerais bien qu'on joue le fantôme... »
Le Sommeil des Amoureux ?
Non, pas le Sommeil des Amoureux, parce que ça, c'est pas possible.
Fontenay ?
Non, les poèmes de Ronsard.
Ah !
Les poèmes de Ronsard, c'est une œuvre qu'il a écrite pour moi. Lui, il a toujours fait des tâches, hein. Il a jamais fait de mélodie, c'est un chercheur. Quoi. La musique est aussi une science. C'est un élève de Messiaen, tout
musique
ça.
Savante.
Musique très savante, oui, très très savante. Et lui, qui n'avait jamais fait de mélodie, a écrit 11 mélodies pour ma voix. avec l'ensemble orchestral de Paris, les 28 musiciens de l'ensemble orchestral. Ça a été un tube en musique contemporaine, hein, on l'a joué 10 fois. Donc, je vais vous dire si ça avait marché. Mais ça fait 20 minutes, c'est pour ça que ça n'a jamais été enregistré. D'accord. C'est jamais sorti sur un album. Et je lui dis, oui, mais 20 minutes, et après, il dit, bah, tu viens avec tes musiciens et tu joues. J'ai dit, ah non, moi je ne viens pas dans un conservatoire avec mes musiciens. Si tu veux, tu leur donnes comme devoir de fin d'année d'orchestrer mes chansons avec toujours la même chose, pas changer les tonalités. Et puis, et il me dit, d'accord. Et donc, on a eu un concert. J'avais invité la maison de disques, là, ils ont cru que c'était mon prochain album, ils ont paniqué. Et j'avais invité les 4 chefs de chœur des Nuits de Champagne pour leur dire, voilà, vous avez le droit d'aller jusque-là, quoi. Et donc, c'est comme ça que...
Et ça s'écoute, ça peut se trouver ou...
Non.
Non, c'est réservé aux musiciens savants. Avec cette volonté de réunir la musique savante et la musique populaire, voilà, c'était un peu le pari avec l'expérience.
Je me souviens de ma première rencontre avec Louvier, c'était à Bobino. Il était venu m'entendre en 83, je crois, parce que je travaillais avec des synthés. Et... la première question que je lui pose en s'asseyant aux îles Marquises en face, c'est pourquoi on ne se parle plus
entre musiciens savants
et musiciens populaires. Et il m'a répondu, moi je vois 2 raisons. La première, c'est la mélodie. Moi je ne fais pas de mélodie, alors que toi si tu n'as pas de mélodie, tu es dans la merde. Et là il réfléchit et il me dit, tu comprends, c'est très facile de faire comprendre à quelqu'un ce que c'est qu'un trapèze quand on le lui dessine. Mais comment le lui faire entendre ?
Là, tout de suite, ça place le...
Là, j'ai eu une impression de grande porte qui s'ouvre. Et il a frappé le premier avec les ronsards.
Alors, juste sur Arthur, je passerai quand même après le morceau aussi que j'aime bien, qui est Mon Ruisseau, alors qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de dire là.
La Fontaine.
Mais j'aime beaucoup ce morceau donc de La Fontaine, c'est ça, Philippe La Fontaine. Voilà, ouais. Je trouve particulièrement. Et sur les musiques, j'avais prévu toute une série de questions, mais vous avez largement anticipé ce que j'avais prévu, parce que vous écrivez quand même vous-même beaucoup de musique. Alors, vous vous êtes fait accompagner par de nombreux musiciens qui vous ont écrit des mélodies, des compositions, etc. etc. mais vous-même, vous avez écrit pour le cinéma.
Assez peu.
Il y a quand même deux films et vous avez même écrit de façon, on va dire, anticipée pour la musique d'ordinateur pour lancer une cassette dans les années 80
pour Apple,
pour Macintosh. Vous avez créé la musique d'accompagnement
sur un programme, le premier programme musical d'Apple. C'était très laid, hein.
Oui,
je l'ai fait.
Voilà. Au niveau musical, voilà, il y a une palette qui est assez importante. Et puis après, Babar, Roi des éléphants, Spartacus, voilà, il y a quand même, parce que quand on pense à vous, on pense aux titres, aux paroles, enfin, il y a plein de choses qui remontent à la tête quand on dit Maxime Le Forestier, mais la musique, c'est pas forcément ce qui arrive d'emblée. Et dans cette émission dont je vous parlais là sur France Musique, je vous renverrai le lien pour que vous la réécoutiez éventuellement, de 75, vous faisiez donc un exercice avec ce trio Fontana Rosa, merci, où vous retravaillez Petit Robot. Et vous aviez réenregistré avec leur accompagnement, et vous aviez dû faire un travail très très précis de revisiter votre œuvre, la chanson adaptée, et également un air irlandais.
C'était un type qui s'appelait Rémi Stricker, qui était professeur d'esthétique au CNSM et qui avait perçu dans Petit Robot des relents de Schubert. Donc pour lui, Schubert, c'était un trio piano, violon, violoncelle, et comme les Fontana Rosa, c'était des amis, il a fait écrire par Marc-Olivier Dupin.
C'est ça, Marc-Olivier Dupin, exactement. Un arrangement, une adaptation, une transposition, je ne sais pas comment une transcription. Je l'ai réécouté encore récemment, c'est vraiment, ça vaut le coup de le partager. Je vais le partager avec les auditeurs. Alors ça, c'était le côté musique. Bah, après, il y a forcément la question des textes qui sont prégnants dans toute votre œuvre, tout autre. Et vous avez expliqué d'abord que la chanson doit être malin, ça doit frapper le cœur et pas l'intelligence.
Oui. Oui, oui. Oui, je pense, oui. Je pense. Une chanson qui... Moi, je n'arrive pas à écrire à partir d'un sujet. Je me laisse guider par le son.
Et parfois, il y a des chiennes d'idées qui passent et vous avez envie...
Ça, c'est Boris Bergman.
À vous. Mais celle-là, elle est particulièrement... Oui, ouais. Sur l'écriture...
Il y a pendant 3 ou 4 ans, on s'était donné rendez-vous à Amsterdam toutes les premières semaines de mars avec Boris et on écrivait une chanson par jour. Alors, il y a à boire et à manger hein, là-dedans. Et chienne d'idées vient de là...
Inutile.
Non, inutile.
Est-ce que vous pouvez raconter, moi j'ai entendu cette anecdote à propos d'Utile de Julien Clerc et Étienne Rodagil,
oui.
Et Inutile. Est-ce que vous pouvez raconter comment ça s'est passé?
Ça a été notre rencontre à Boris Bergman et moi, c'était dans une réunion de la SACEM,
c'est ça.
Qui était un peu chiante, faut dire, où il y avait Étienne Rodagil qui discourait, il s'écoutait beaucoup, hein, il était très cultivé et il aimait que ça se voit. Et à un moment, on avait chacun un paquet de feuilles et tout, et on était à côté du radiateur avec Boris, et à un moment, Boris me passe une feuille avec marqué « Inutile ». Et il venait d'écrire « Utile » pour Julien Clerc, alors on a couvert 3 pages de trucs comme ça, et c'est de là qu'est née la chanson.
Et moi, j'ai juxtaposé les deux, « Utile » et « Inutile », parce qu'au-delà du jeu de mots...
Rien ne sert de courir quand on court après rien, c'est
voilà,
ça.
Mais je pense qu'il y a aussi sur l'utilité de la chanson, l'utilité de ce qu'on fait. Vous avez dit par ailleurs que la chanson, c'était sociale parce qu'elle était partagée, et que ne serait-ce que par ça, voilà. Donc, l'utilité de l'œuvre de chanson, art mineur, art majeur, vous avez les fameux débats. Je pense que c'est au travers de ces deux titres-là, il y a vraiment du sens. J'ai pensé aussi à cette rencontre entre Ferrat et Brassens. C'était avec l'émission
Chabrol. Jean-Pierre Chabrol.
Jean-Pierre Chabrol, oui. L'invité du dimanche en 69. Avec est-ce que le pluriel ne vaut rien à l'homme, sitôt qu'on est quatre, on est une bande de cons, ou est-ce que en ligue, en procession, on est de ceux qui manifeste, vous placeriez dans quel camp, si je peux dire.
Vous savez que un jour Jean Ferrat a écrit une chanson qui s'appelait À Brassens.
Oui, je vais te raconter.
Alors j'arrive chez Brassens et je lui dis, tu sais que Ferrat a écrit une chanson sur toi. Et Brassens m'a dit oui. Alors, est-ce le pli de tes moustaches ou bien tes cris de mort aux vaches qui nous séduit? Le sujet du verbe être, c'est bien le pli de tes moustaches ou tes cris de mort aux vaches. Donc ça n'est pas est-ce, c'est sens. Et donc, qui nous séduisent. On ne commence pas une chanson sur Brassens par une faute de français.
Cette anecdote est vraiment savoureuse.
Mais Ferrat était un peu à part,
oui.
dans le monde du spectacle et même dans le monde de la poésie, quoi. Il était communiste.
Oui, oui. Non, puis il y avait cette forme aussi d'explicité, d'avoir des chansons plus explicites.
C'est ça.
Voilà.
Ah, oui, entrez.
C'est presque la fin.
Oui. 5 minutes.
Ouais, on a presque fini. Donc je vais accélérer. Par rapport aux chansons explicites, vous dites « Je suis toujours aussi révolté, mais je ne le dis plus ».
Oui.
Voilà. Alors, sauf dans une des dernières chansons de votre dernier album, enfin des chansons parmi les plus récentes, que moi j'adore, que je vais passer, « Le grand connard ». Celle-là, elle est explicite.
Non.
Là, c'est mauvaise foi, là.
Non. Moi, c'était, au départ, c'était mon voisin. Le grand connard, parce qu'il faisait des travaux chez lui, et moi j'étais en train de travailler sur mon prochain album, et j'ai dû quitter ma maison de Paris pour aller à la campagne travailler, écrire.
D'accord.
et c'est là que j'ai écrit Le Grand Connard. Mais
là, je trouve qu'il a un caractère universel. Je sais pas, j'ai des noms qui viennent.
Évidemment, oui, surtout maintenant.
J'ai vraiment des noms qui viennent. Ouais. Et puis on pense forcément au Roi des Cons. Enfin voilà, toute cette filiation de chansons. Non, mais elle est plutôt explicite. Mais c'est vrai que les autres sont moins explicites. Et après, là, dans la période où on est, on approche du 8 mars, au niveau des chansons féministes ou autres, quelles chansons vous mettriez en avant dans votre œuvre qui, pour vous...
Frisson d'avril...
Moi, j'aime bien Les Filles Amoureuses.
Les Filles Amoureuses, oui, encore que... J'ai eu une réflexion d'une copine qui est maquilleuse qui m'a dit non, c'est pas vrai ça. Moi j'ai épousé un mec qui est formidable.
Et après il y a beaucoup de vos chansons, enfin un certain nombre de vos chansons qui ont été reprises par des femmes. Alors parmi les plus célèbres, bien sûr, il y a Parachutiste, avec Catherine qui l'a chanté, qui l'a enregistré, avec Joan Baez qui l'a enregistré. Et il y a quelques années, une certaine Juliette qui en a fait une version savoureuse aussi avec François Morel.
Avec François Morel, oui, ça c'était un...
C'était une pochade.
Non, c'est Polydor qui, parce que je ne sais pas, ça faisait 40 ans ou 30 ans que j'étais sous contrat avec eux. Non, 40 ans, oui. Et ils ont décidé de m'offrir mon premier album chanté par d'autres, des jeunes qui étaient tous des signatures de Polydor.
Voilà. Sur La Maison Bleue, ils ont fait le titre, c'était La Maison Bleue, ils ont repris le premier album de 72.
C'est ça. Alors, San Francisco a été chanté par Dabi Touré en soninké.
Oui, tout à fait, ouais, magnifique. Moi j'aime bien aussi la Grande Sophie qui a repris.
La Grande Sophie qui a repris Comme un arbre, etc.
Émilie Loiseau. C'est pour ça que c'était des femmes. Ouais, ouais. Les femmes aiment bien votre répertoire. Aiment bien le reprendre. Alors moi dans mon émission, il y a beaucoup de choses autour des reprises, des versions différentes et autres. Et vous êtes quand même un habitué de ça. Bon, bien sûr, l'œuvre de Brassens, mais est-ce que c'est une reprise ou c'est un hommage à l'œuvre? Mais par ailleurs, vous avez fait plein de choses différentes. Alors moi j'ai relevé par exemple La Gigue des Petits Morts de Romain Bouteille.
Oui.
Que j'ai découvert vraiment, qui n'est pas enregistré. Je crois que votre version n'est pas enregistrée.
Non.
Hein, mais c'est assez extraordinaire. Et après, parmi les artistes que vous avez côtoyés, peut-être des grands frères, Moustaki.
Oui.
Hein, dont vous avez repris quand même beaucoup de titres, et celui que moi pour lequel j'ai une affection particulière, Graham Wright,
oui,
avec qui vous avez fait une tournée, et vous avez repris plusieurs titres avec lui.
Oui.
Y compris en anglais.
Oui.
Vous vous rappelez de cette époque-là,
enfin
cette...
Ah oui, c'était 1980. Je me souviens très bien. Oui.
Voilà. Après, je passerai différents titres aussi qui ont été repris de vos titres par vous. Et peut-être, je ne sais pas si j'irai jusque-là, mais la fameuse chanson Tombée que vous aviez écrite pour Gérard de Palmas.
Gérard de Palmas.
Et qui a été reprise par une artiste internationale.
Oui, qui était Céline Dion, oui, bien sûr. Oui.
Mais qui n'a absolument pas respecté votre œuvre, enfin votre écriture, même si vous êtes crédité, mais qui a fait une chose complètement...
Oui, elle a dit à René, je veux chanter cette chanson. Bon, ils étaient en fin d'album, donc René dit oui, évidemment, et il ne me demande rien. René, il fait traduire par un... Il fait adapter par un parolier anglophone.
Et donc ça sonne...
Et voilà, donc je me suis trouvé dans la situation extrêmement gênante d'avoir le pouvoir d'interdire le dernier album de Céline Dion, que j'ai pas fait. J'ai fait dire à René que c'était à ses conditions, et voilà, quoi.
Et après, un titre que je vais passer, parce que je trouve vraiment magnifique et récent, l'année dernière, La Dame Brune.
Ah, La Dame Brune avec Noémie.
Ouais.
Oui.
Comment c'est venu ce...
C'est venu par un ami qui est décédé maintenant, qui s'appelait Jean-Philippe Allard, qui était un érudit, savait tout en jazz, il savait tout, vraiment. Et il avait dirigé pendant des années, pendant 10 ans, le pôle musique instrumentale d'Universal. Après, il a été nommé directeur de Polydor. Il est resté 10 ans. Et ses signatures, ça allait de Patrick Sébastien à Brigitte Fontaine.
D'accord.
Et puis après, il est resté pendant 10 ans aussi à la tête de l'édition, du catalogue éditorial, du publishing, la machine à cash de ce genre de boîte. Puis il a été viré par Bolloré.
Tant qu'à faire.
Et donc là, il était triste parce que ça faisait quand même 30 ans qu'il travaillait dans cette maison. Et je lui ai dit, écoute, si un jour tu as envie d'être manager, tu sais que tu auras toujours une botte de paille et un truc chez moi.
Une minute.
Et voilà. Et okay. Ça s'est fait comme ça. Et il m'a toujours mis sur des trucs. C'est lui qui m'a présenté Baptiste Trottignon. C'est lui qui
magnifique, ouais.
Voilà.
Okay. Alors bon, le show must go, le show must go. Oui. Voilà. J'ai éludé toute la partie Brassens que. Ouais. Donc je suis un fan, voilà. Donc notamment la visite, voilà, dont je voulais parler, mais j'en parlerai, hein, parce que pour moi c'est vraiment la chanson que vous avez écrite la plus en prolongement de l'œuvre de Brassens. Ouais. J'adore cette chanson. Et je termine juste. Alors là, c'est vraiment la fin. En ce moment, dans ce que vous écoutez, dans ce que vous avez en tête, qu'est-ce que vous voudriez partager avec les auditeurs, un artiste, une chanson, une musique que vous
Doremus.
Doremus en ce moment.
Ah oui. Enfin, depuis un petit moment, oui. Doremus, Cabrel.
Le dernier Cabrel, ouais. Ouais. Qui a fait sur Toulouse, là.
Oui.
Doremus en particulier, un titre ou non?
Oh, bah, Doremus, il y a Brassens en pleine poire. Qui est quand
ah
même
oui, d'accord, d'accord, c'est celui-là, oui, ok. Ce qui est pas récent, celui-là.
Non, mais il y a la danseuse blessée qui est plus récente. Mais pour moi, c'est un exemple d'artiste quadragénaire. Qui n'a pas été développé dans les années 2000 parce que c'était le début de la crise Internet et qui a continué quand même.
Voilà.
Voilà.
Le petit peuple de la chanson française, comme dit Michel Bernard.
Voilà.
Tous ces
voilà,
artistes-là.
J'ai une tendresse particulière pour lui, pour Alexis HK, pour...
Ah oui, Alexis pour, HK. Il a fait un truc sur Trump, d'ailleurs.
Ah, je ne sais pas.
Le dernier tweet.
Pas,
le tweet.
Je ne sais pas. Voilà. Pour Jeanne Chéral, pour voilà, ces gens-là qui ont tenu bon quand même.
Voilà. En vous remerciant, et je vous laisse à vos plaisirs de vous retrouver sur scène. Merci.
D'abord, il faut que j'aille dîner.
Allez, ouais. Merci.